C'est le trésor le plus prodigieux qui ait jamais existé.
Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça?
Des protecteurs de trésors, plutôt.
C'est de la merde!
J'ai rien compris.
Tu comprends pas! Tu expliques mal! Tu ne sais pas expliquer!
C'est l'heure de On révise nos classiques sur Radio Campus Paris.
Oh putain, moteur!
L'émission qui mêle cinéma et archéologie.
44 millions de dollars,
4 Oscars,
2 ans et demi de tournage
et 4 heures de film.
Une histoire d'amour sulfureuse.
L'actrice la plus invivable en plateau de tous les temps.
Assez !
Nous parlons bien sûr de
Cléopâtre. Un film réalisé par Joseph Mankiewicz en 1963.
Avec Elizabeth Taylor, donc.
Richard Burton.
Et Rex Harrison.
Une belle production hollywoodienne, donc, avec son lot de poncifs scénaristiques.
Avec l'image de la femme au foyer à la taille de guêpe des années 50.
Mais en talons.
Qui soit peint, chante et prend des bains.
Soit qui pleure son mari qui part au combat sur le quai d'embarquement.
Mari, donc, très occupée par la guerre et la politique.
Ouf ! On est rassuré, chacun est à sa place.
Le maïs, la pomme de terre et la tomate, un peu moins par contre.
Et oui, on rappelle que ces trois aliments, qui apparaissent à plusieurs reprises lors de banquets dans le film, viennent de l'autre côté de l'Atlantique,
le continent américain.
Et ils n'atteignent l'Europe qu'après la conquête du continent.
Soit, 16 siècles après l'époque de Cléopâtre.
Bon, et puis il y a aussi d'autres anachronismes moins perceptibles.
Vous vous rappelez de l'arrivée de Cléopâtre sur le forum en grande pompe ?
Elle passe sous un arc
qui s'inspire de celui de Constantin,
alors que celui-ci n'existe pas encore à l'époque de Jules.
Il ne sera en effet construit que 3 siècles plus tard,
et pas face à la Curie,
mais à côté du Colisée,
à l'autre bout du forum.
À part ça, on sent qu'ils ont compris,
et peut-être même mieux que ne l'a fait Alain Chabat récemment dans le film Mission Cléopâtre,
le fait que, à l'époque de Cléopâtre, deux cultures,
l'égyptienne et la gréco-romaine,
s'imbriquent et s'enrichissent mutuellement.
Et je trouve ce que tu portes, toi, des plus saignants. C'est grec, je crois.
J'ai un faible pour presque tout ce qui est grec.
Comme je suis moi aussi presque grecque, je me sens flattée.
On retrouve des sphinx,
des scarabées,
des chatounets,
des obélisques,
et puis des temples à colonnades,
des toges,
des spartiates,
et des statues en marbre.
Statues qui, au passage, sont en général toutes blanches, alors qu'on sait depuis,
grâce à l'archéologie,
qu'elles étaient peintes. Et on sait également maintenant,
grâce à l'archéologie,
que le phare
d'Alexandrie
n'a pas la forme présentée dans ce film. Et on sait aussi,
grâce à l'archéologie,
que le tombeau d'Alexandre qui apparaît dans le film n'est probablement pas localisé
à Alexandrie.
Et ceux de Cléopâtre et de Marc-Antoine que l'on voit aussi dans le film,
mais aussi grâce à l'archéologie.
Non, bah non, justement, non, on sait pas. Non.
Et on sait d'ailleurs pas non plus ce qu'il est advenu de cette pauvre bibliothèque.
L'Alexandre.
Si elle semble avoir effectivement brûlé dans un incendie, ça ne s'est peut-être pas passé comme on nous le raconte.
César a bien foutu le feu au port, mais ce n'est pas forcément celui-ci qui a touché la bibliothèque.
Et qui aurait occasionné des dégâts irréversibles.
Par ailleurs, vous aurez remarqué le caractère spacieux des salles de réception dans le palais de Madame.
Eh oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ?
Alors certes, ces petits humains qui se posent plein de questions dans des décors quasi théâtraux contribuent au côté tragique de la situation.
Qui suis-je ?
Où vais-je ?
Dans quelle étagère ?
Mais il est très peu probable de trouver ce genre d'architecture, sans un minimum de poteaux internes, en Égypte à cette époque.
C'est pas possible. En revanche, on retrouve dans toutes les salles du palais des sculptures et des peintures murales inspirées directement de celles que l'on trouve dans les tombes pharaoniques.
C'est d'ailleurs probablement de ce type de représentation dont s'inspirent les décorateurs.
Comme cela nous l'est déjà suggéré lors du générique,
où l'on voit s'enchaîner les images du film représentées à la façon des fresques retrouvées à Pompéi.
Bon nombre de costumes et de postiches semblent ainsi tout droit tirés de ces images.
Ainsi, par exemple, le buste de Nefertiti,
le sarcophage de Toutankhamon,
ou encore la sculpture d'Auguste de Prima Porta,
sont autant de sources iconographiques dans lesquelles le chef déco a pu puiser son inspiration pour créer costumes et coiffes égyptiennes et armures romaines.
Top là ! Si ce film n'est pas le premier du genre sur l'histoire de Cléopâtre, il installe l'image que l'on se fait d'elle et de son quotidien.
Image pourtant basée sur des approximations et des fantasmes, puisqu'on ne possède finalement que très peu d'informations objectives sur elle.
Assez ! Mauvais caractère, mais joli nez.
Et c'est cette image qui sera directement reprise par Goscinny pour ses aventures d'Astérix,
puis par Alain Chabat plus récemment, rendant ainsi hommage à cette œuvre
et à son actrice principale, seul monument qui éclipse finalement tous les autres.
Et qui nous permet de
réviser nos classiques.